Bonjour à chacun. J'ai plaisir à vous retrouver ce matin de manière un peu différente puisque nous sommes chacun chez nous plutôt que d'être réunis ensemble à Etup. Mais j'ai de la joie d'être avec vous et puis surtout je veux me rappeler que nous sommes d'abord unis parce que nous sommes unis à Jésus-Christ. Et puis nous voulons ce matin nous réunir pour étudier ensemble sa parole. Le sujet qui domine l'actualité en ce moment, c'est le sujet du coronavirus. Un sujet d'abord un petit peu lointain, qui au final s'approche de nous et qui est devenu de plus en plus dense, qui occupe tous nos journaux. Et chaque matin, on a le décompte du nombre de personnes contaminées, du nombre de personnes décédées dans le monde, en France, dans notre région. Et le sujet est devenu un peu oppressant finalement. Et puis ça a changé nos vies. Cette semaine, certains de nos enfants ont été refusés à l'école par mesure de précaution. Certains ont été aussi refusés à leur travail. On nous a demandé d'arrêter nos cultes le dimanche, mais aussi tous nos rassemblements en semaine par mesure de précaution. Et finalement, ça bouscule nos vies et ça donne une espèce de climat, un climat de crainte, un climat dans lequel nous ne savons peut-être pas d'où toujours comment réagir. Et au milieu de ce climat, j'aimerais voir avec vous un texte qui nous parle de la joie. Mais un texte qui nous parle de la joie dans un contexte aussi où il y a des raisons d'inquiétude. En fait, ce texte est tiré de la lettre de Paul à Philippiens. Paul est lui-même à Rome, il est en captivité, il est prisonnier suite à un complot. Les Juifs ont comploté pour qu'il soit arrêté, puis ensuite ils ont complété pour essayer de le faire tuer. Et puis finalement, Paul va rester prisonnier 2 ans à Césarée, il va faire appel à l'empereur et il va arriver à Rome où il sera prisonnier en attente de son jugement. Avec sans doute des perspectives de mort à l'issue de ce jugement. De cette époque où il est à Rome, nous avons 4 épîtres qui nous sont écrites par Paul, Éphésiens, Colossiens, Philémon, et puis celle qui nous concerne plus particulièrement ce matin, Philippiens. Je le disais, Paul a de bonnes raisons de s'inquiéter. Premièrement, à cause de sa situation de prisonnier, où il risque la condamnation à mort, mais aussi à cause de la crise profonde qu'est en train de vivre l'Église de Rome, où les Juifs et les païens sont en train de se diviser, mais aussi à cause, et nous le verrons dans le verset 2, de la situation à Philippe, où une dispute entre Évodie et Syntyche est en train de gangréner l'Église. Et Paul ne peut pas être là, présent, pour aider. Il ne peut pas être là pour intervenir. Il est prisonnier, mais il n'est pas inquiet. L'inquiétude, c'est le fait d'avoir peur à l'avance de ce qui pourrait arriver. En fait, l'inquiétude, c'est souffrir aujourd'hui pour ce qui pourrait arriver demain. C'est souffrir aujourd'hui pour ce qui pourrait arriver demain. Le texte que je vous propose, se trouve au chapitre 4 et je voudrais vous lire les versets 2 à 9. Philippiens 4, les versets 2 à 9. J'encourage Évodie et Syntyche à vivre en plein accord dans le Seigneur. Toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider. Elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi ainsi qu'avec Clément et mes autres collaborateurs dont le nom figure dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Que ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Réjouissez-vous. C'est le message que Paul adresse à cette église qui a des raisons de s'inquiéter. Nous avons de bonnes raisons de nous inquiéter dans ce temps de crise. Que ce soit pour nos proches, pour les personnes qui sont les plus fragiles parmi nous, peut-être aussi pour la situation plus globale du pays, du monde. Quelles conséquences va avoir une telle crise sur notre économie, sur notre niveau de vie demain? Quelles conséquences cela peut avoir en termes d'emploi? Quelles conséquences cela va avoir sur les études de nos enfants, etc. Il y a tant de raisons pour lesquelles nous pouvons nous inquiéter. L'inquiétude assombrit nos journées et vole notre joie. L'inquiétude vole notre joie. Quand on pense à la joie, on pense à un sentiment, à une émotion, à des notions de bonheur, de satisfaction, de plénitude, de paix. L'inquiétude vole notre joie. Je regardais finalement une revue qui disait 10 moyens pour être heureux. Alors voici ce qu'elle disait. 1. S'occuper de sa santé physique. 2. S'occuper de soi, s'accorder du temps. 3. Planifier ses loisirs sans attendre d'être à bout de souffle ou exténué. 4. Reconnaître ses intérêts personnels. 5. Se valoriser soi-même sans attendre les compliments des autres. 6. Cultiver ses amitiés. 7. Vivre le présent et pas seulement les rêves et les projections. 8. Être indulgent, patient pour soi-même, agir comme on le fait avec son meilleur ami. 9. Ne pas laisser aux autres le soin de deviner ses besoins. 10. Consulter, demander de l'aide à un professionnel si besoin. Finalement, dans toute cette liste, je suis au centre de mes intérêts, ma vie, ma santé, ma famille, mes amis, mes intérêts. Tout tourne autour de moi. Et j'ai un peu entendu ça ces dernières semaines. Comment est-ce que cette épidémie me concerne moi? Est-ce que je risque d'être infecté? Qu'est-ce que je vais faire de mes enfants si les écoles sont fermées? Est-ce que je vais pouvoir continuer à faire mes courses? Est-ce que je dois stocker? Et finalement, la joie qui était centrée sur moi, sur ce que je ressens, sur ce que je vis, disparaît. Mais regardez ce que dit Paul dans ce texte. La première chose qu'il leur dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Paul commande d'être joyeux. Il nous commande d'être toujours joyeux, pas dans ce que nous vivons, pas dans ce que nous ressentons, mais dans le Seigneur. Et quand on pense à finalement quels sont les manifestations classiques de la joie, on pense au rire, à la fête, aux danses, aux éclats de voix, mais regardez le texte avec moi. Juste après la joie, Paul évoque ici la douceur. Que votre douceur, votre amabilité soit connue de tous les hommes. Et John MacArthur explique le terme qui est utilisé ici pour douceur. Il dit que c'est un terme qui renvoie au contentement par rapport aux autres et à la générosité réciproque. Il dit qu'il peut même décrire finalement la patience de celui qui accepte l'injustice ou les mauvais traitements sans exercer de représailles. Une attitude de bonté accompagnée d'humilité envers tous les hommes. Imaginez ce que ça veut dire quand Paul dit ça dans un contexte d'inquiétude, de division, mais aussi pour les chrétiens de l'époque, la persécution. Joyeux et doux, voilà le programme que nous propose Paul avec notre texte aujourd'hui. Et pour cela, Paul va nous donner trois clés pour vivre cette joie. Une prière juste, une pensée juste et une vie juste. Alors je voudrais prendre le premier de ces points avec vous. Une prière juste. Paul dit tout de suite, le Seigneur est proche. Et cela évoque en fait deux choses qui vont ensemble. La première chose, c'est le retour de Christ. Jésus est proche parce qu'il va venir et que ce qui nous attend est merveilleux. Et on a souvent lu ce texte ces derniers temps d'Apocalypse 21 au verset 4 qui nous dit: Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Nous vivons en connaissant la fin du film, la fin du roman. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on lit un roman qui est un peu angoissant, qui est oppressant, et puis on a quand même envie d'aller voir dans les dernières pages qu'est-ce qui arrive à notre héros. Est-ce que ça se finit bien pour lui ou est-ce que ça va être un désastre total et le roman va s'enfoncer de page en page? Nous avons lu les dernières pages. Nous connaissons les dernières pages de l'histoire. Nous savons qu'il y a une victoire totale et que tout ce qui se passe ici, quoi que ce soit, finira pour notre bien. Nous connaissons la fin de l'histoire et nous savons que cette histoire est proche. Jésus revient bientôt, il est proche. Et puis il y a la deuxième notion derrière ça. Jésus est proche de nous parce qu'il prend soin de nous. Il est proche de nous, il est proche de nos soucis, il est proche de nos difficultés. Quand Jésus envoie ses disciples, il leur dit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et puis il leur dit « Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Cette présence qu'il nous assure par son esprit. Il dit aussi dans Jean 16, verset 7, « Je vous dis la vérité. Il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur, son esprit, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, par des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs, vos pensées en Jésus-Christ. Prison, attente de jugement, jalousie sont à l'origine de ce texte. Ne vous inquiétez pas, mais priez. La prière comme un réflexe. On me tape sur le genou, je lève la jambe. Je suis inquiet, je prie. Et Paul utilise trois termes pour insister sur l'importance du fait que nous parlions à Dieu quand nous sommes inquiets. Chaque mot a sa coloration. La prière, les supplications, les actions de grâce. La prière qui nous conduit à nous tourner vers Dieu, à reconnaître, à aimer sa souveraineté. Dans les groupes de maison, nous allons bientôt commencer à étudier ensemble la prière que Jésus apprend à ses disciples, la prière du Notre Père, et voici comment elle commence. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous reconnaissons que Dieu est au ciel, qu'il fait ce qu'il veut. Nous désirons que sa volonté s'accomplisse, même quand nous ne la comprenons pas, même quand les temps nous semblent troubles, parce que nous savons que ce qu'il fait, c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous, pour le monde, et que nous connaissons déjà la fin. La prière nous conduit aussi à exposer nos besoins devant Dieu. Nos besoins sont légitimes et Dieu prend plaisir à entendre nos prières. Il peut répondre à nos besoins. Nous venons et nous revenons vers Dieu pour lui présenter nos besoins. Et quand on fait cela, finalement, nous reconnaissons que Dieu est celui qui pourvoit et que nous sommes ses enfants dont il prend soin. On a quelques textes qui nous rappellent cela tout au long de l'histoire du peuple. Dans Néhémie 9, 21, pendant 40 ans, tu pourvus à leur entretien dans le désert, ils ne manquèrent de rien. Leurs vêtements ne s'usèrent point, leurs pieds ne s'enflèrent point. Dieu est un Dieu qui prend soin de son peuple. Un roi 17-16, la famine qui était dans le pot ne manqua point, la farine qui était dans le pot ne manqua point, l'huile qui était dans la cruche ne diminua point selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Psaume 90, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre la bouche, je la remplirai. Psaume 23, verset 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Dieu aime nos prières. Il aime que nous lui présentions nos besoins qui sont légitimes. Il aime que nous le reconnaissions comme celui dont nous dépendons dans notre vie de tous les jours, celui en qui nous pouvons nous confier. Dieu aime nos prières. Mais des fois, j'ai l'impression que je dis à Dieu des choses qu'il sait mieux que moi, que j'exprime des besoins qu'il connaît avant moi. Peut-être que des fois aussi j'ai du mal à trouver les mots pour exprimer ce que je ressens. J'ai du mal à savoir quels sont mes besoins réels. Mais Dieu nous dit qu'il nous aide dans nos prières, par son esprit. Dans Romains 8, 26, il nous dit « De même que l'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Ne vous inquiétez de rien, mais priez pour tout. Ne vous inquiétez de rien, mais priez pour tout. Dieu agit alors dans nos émotions, dans nos pensées, pour y produire la paix. Ésaïe 26, 3 nous dit: À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures une paix parfaite, parce qu'il se confie en toi. Dans le psaume 94, au verset 19, il nous est dit: Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Une prière juste. Mais c'est aussi une pensée qui est juste. Et Paul continue avec cette liste que nous trouvons. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Vous connaissez sans doute cette histoire de Socrate avec ses amis, ou avec l'un de ses amis. Cet ami arrive un jour tout agité auprès de Socrate et lui dit: Écoute Socrate, il faut vraiment que je te raconte comment ton ami. Et là, arrête, lui dit Socrate. As-tu passé ce que tu as à me dire au travers des trois passoires? Les trois passoires, lui répond à son ami étonné. Oui, mon bon ami, les trois passoires. Laisse-moi te voir si ce que tu as à me dire peut traverser ces trois passoires. La première, c'est la passoire de la vérité. Est-ce que tu as examiné si tout ce que tu veux me raconter est vrai? Ben non, je l'ai entendu raconter. Bon, bien. Mais assurément, tu l'as fait passer à travers la deuxième passoire, celle de la bonté. Est-ce que si ce n'est pas tout à fait vrai ou que tu n'es pas sûr que c'est vrai, est-ce que tu peux me raconter quelque chose qui est bon? Hésitant, l'autre répondit: Non, au contraire. Alors, Socrate, tu dis, mais essayons au moins de la troisième passoire et regardons si c'est utile de me raconter ce qui t'agite à ce point. Utile? Pas précisément. Alors lui dit Socrate en souriant, si ce que tu as à me dire n'est ni vrai, ni bon, ni utile, alors oublie-le, ne me le raconte pas et ne t'en soucie pas. Et c'est une première chose que nous apprend ce texte. Observer nos pensées avec des filtres. Est-ce que nos pensées nous parlent de choses qui sont vraies, qui sont honorables, qui sont justes, pures, aimables? Est-ce que nos pensées méritent l'approbation? Est-ce que nos pensées sont vertueuses, dignes de louange? C'est une sorte de test qui nous permet de voir à quoi ressemblent nos pensées. Et finalement, ça nous dit quelque chose d'autre. Est-ce que nos pensées ressemblent aux pensées de Jésus? Lui qui a toujours été vrai, honorable, juste, pur, aimable, qui mérite l'approbation, qui est vertueux et digne de louange. Dans sa lettre aux Corinthiens, Paul dit que nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit de Dieu, que nous avons reçu la pensée de Christ. Dans le chapitre 2, il nous montre quelle était la pensée de Jésus, et il nous dit d'avoir cette même pensée en nous. Quelles sont alors les pensées de Christ? Remontons de quelques versets. Je lis dans Philippiens au chapitre 2 au verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Au chapitre 2, Paul nous dit de considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes. Il nous livre dans les versets 6 à 11 une hymne qui nous parle des pensées de Christ, qui nous parle de Christ pleinement Dieu depuis toujours, qui renonce à ses droits, prend la dernière place dans la société et va mourir sur une croix. La pensée de Jésus, c'est la pensée d'un homme qui n'est pas préoccupé par lui-même, mais par le fait de servir son prochain, d'offrir sa vie pour lui. Je suis particulièrement touché, encouragé par toutes les personnes qui ont spontanément dit: Je veux aider. Et on a reçu des messages en nous disant: Je veux aider. Qu'est-ce que je peux faire pour aider les personnes qui sont en difficulté dans l'église? Des personnes ont proposé de garder des enfants avec les leurs. Une personne a proposé de servir les autorités pour aider dans la gestion des malades parce qu'elle est infirmière. Des personnes se sont proposées en disant, mais je veux bien faire des courses, faire quelque chose. Et c'est vraiment reconnaissant de voir que l'Église, que nous pouvons nous oublier nous-mêmes pour servir les autres. Tout ça, c'est la pensée de Christ. Ce qui est vrai, honorable, pur, juste, aimable, qui mérite l'approbation, qui est vertueux, qui est digne de louange. Une prière juste, une pensée juste, une vie juste. Parce qu'après les pensées viennent les actes. Paul dit, ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. En dépendance de nos pensées qui sont renouvelées par l'Esprit, qui sont centrées sur Jésus, nous pouvons mettre en pratique ce que nous avons appris, reçu, entendu de Paul pour les Philippiens. Nous avons vu qu'il écrit en 62-63, il les a visités lors de son deuxième voyage, ça fait 10 ans auparavant. Entre-temps, il a écrit 2 lettres aux Thessaloniciens qui sont dans la même région, il a également écrit 2 lettres aux Corinthiens, celles aux Romains, Éphésiens, Colossiens, Philémon. Et la plupart de ces lettres étaient copiées, elles circulaient dans les églises. Nous avons par exemple un indice dans la lettre de l'Épître aux Colossiens qui nous dit lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église de Laodicée. Et vous lirez à votre tour la lettre qui leur est arrivée. Je ne sais pas à quelle lettre ils ont eu eux-mêmes accès. En tout cas, ils ont appris, reçu, entendu de Paul. Nous avons reçu, nous, cette parole de Dieu. Cette parole que nous avons entendue, cette parole qui nous transforme nos cœurs, cette parole que nous voulons mettre en pratique. Et quand on regarde dans cette parole, qu'est-ce qu'elle nous dit à propos de ce comment nous agissons quand nos frères et nos sœurs vivent dans des temps difficiles? Philippiens 2, 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Galates 6, 2, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Romains 12, 10, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de persévérance réciproque. Galates 6, 10, ainsi donc, frères, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi. Nous avons encouragé dans la semaine au groupe de maison qui ne l'avait pas encore fait de créer un groupe WhatsApp pour communiquer, prier les uns pour les autres, mais pas seulement, aussi pour que des pensées renouvelées appellent, engendrent des actes renouvelés. N'hésitez pas à vous en servir pour faire connaître vos disponibilités, mais aussi vos besoins et qu'ils puissent se rencontrer. Quelques mots pour conclure. Réjouissons-nous toujours dans le Seigneur avec une prière juste, une pensée juste, une vie juste. Christ nous a libérés de notre condition par la croix. Et maintenant, le Saint-Esprit continue son œuvre en vous. Et le Dieu de paix sera avec vous. C'est ainsi que Paul conclut ce passage. Nous vivons des temps tourmentés, et pas seulement à cause du coronavirus. Chômage, relations compliquées. Et si nous regardons un petit peu plus loin, nous voyons, comme au temps de Paul, la persécution. Nous entendons les guerres sans fin. Nos vies aussi peuvent être troublées, que ce soit par l'extérieur, mais aussi par l'intérieur. Mais nous savons que le Dieu de paix est avec nous. Ce Dieu est descendu sur la croix pour établir la paix à laquelle nous aspirions. Cette paix est une paix objective. Nous sommes en paix avec le Dieu créateur de l'univers. Je n'ai aucune idée, de la période pendant laquelle nous allons devoir rester chez nous plutôt que de nous réunir, le dimanche ou dans nos groupes de maison, pendant laquelle tous nos rassemblements seront annulés. Et nous sommes aujourd'hui avec Corinne aussi dans l'hésitation, quant à annuler, la semaine de Pâques pour laquelle des préparatifs auraient déjà, dû commencer. Mais quoi que nous vivions, je sais que nous pouvons vivre ensemble cette paix acquise par Dieu à la croix et nous réjouir ensemble en ayant une prière juste, une pensée juste, une vie juste. Prions encore ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier parce que tout ce que nous avons nous vient de toi. Si nous pouvons vivre la paix, c'est parce que cette paix, tu l'as acquise sur la croix. Et nous voulons être reconnaissants aussi parce que tu nous as envoyé ton esprit, tu nous as donné ta parole. Et nous te prions que ton esprit et ta parole nous façonnent pour que nous ayons une prière juste, que nous sachions quoi demander, que nous sachions comment nous pouvons prier pour nos frères et sœurs, pour nos amis, pour les personnes qui nous entourent, que nous puissions poser devant toi nos besoins légitimes, nous attendre à toi et en même temps, au travers de tout cela, reconnaître ta bonne souveraineté. Nous te prions que par ta parole aussi tu puisses renouveler nos pensées, que nous puissions voir le monde comme toi tu le vois, que nous puissions penser de la même façon que toi, cessant de vivre pour nous-mêmes en voulant vivre pour toi, en voulant vivre pour ce qui nous entoure. Et nous te prions aussi que tout cela se manifeste concrètement en action, que des cœurs transformés donnent des vies transformées. Et je te prie que l'Église qui aujourd'hui est éclatée, en tout cas physiquement, puisse être unie en toi et que nous puissions agir les uns pour les autres et que ainsi chacun voit l'amour que nous avons les uns pour les autres et que nous sommes tes disciples. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À très bientôt.